7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment devenir un orateur ? Parler en public avec aisance, être capable de captiver son auditoire, c'est devenu aujourd'hui une nécessité, peut-être davantage qu'un talent. Les méthodes se multiplient pour apprendre à devenir un orateur, quelles que soient les situations. Exposer clairement ses idées, son plan d'action d'ailleurs, montrer sa personnalité au travail ou dans un engagement citoyen. Qu'est-ce qu'une prise de parole réussie ? Comment s'entraîner surtout et se préparer ? Les voisins, les voisines, surtout vous nous appelez dès maintenant pour poser vos questions à nos invités au 33 1 84 22 71 71. On est aussi sur WhatsApp, vous pouvez nous laisser des messages vocaux. Et pour discuter de ce sujet, je vous présente nos invités. Michel Lévy-Provençal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président, fondateur, organisateur des conférences TEDx à Paris. Alors peut-être on va redire ce que c'est que TEDx. Tout le monde ne connaît pas TEDx.
Oui, c'est une conférence qui a été à l'origine créée aux États-Unis, qui s'appelle TED en 1984 et qui a eu cette idée à la fois folle et géniale en 2009 de proposer à quiconque dans sa communauté de pouvoir organiser une conférence locale avec un certain nombre de codes que nous avions la possibilité d'appeler TEDx, du nom de la ville où était organisé cet événement. Alors, à TED, on retrouve des personnalités illustres, depuis Al Gore, en passant par Bill Gates et bien d'autres. Et lors des conférences TEDx, l'idée est d'identifier des acteurs locaux qui ont des idées particulières à présenter au monde.
Alors, des conférences en public retransmises en vidéo, et donc évidemment qui deviennent virales pour les meilleures vidéos et les meilleurs orateurs, avec des règles particulières, notamment sur la durée, jamais plus de 18 minutes.
La règle, c'est jamais plus de 18 minutes, mais avec le temps, ça fait 10 ans qu'on fait cela maintenant, avec le temps, on s'est rendu compte que le temps aussi, la durée de la vidéo devait être raccourcie. On est plutôt sur une moyenne de 12 minutes.
Parce qu'on ne peut pas se concentrer plus de combien de temps ?
Malheureusement, notre attention diminue de plus en plus avec le temps.
Bon, et ben c'est pas bon pour notre émission. Alors, on va essayer de vous captiver, les voisins et les voisines. En tout cas, vous, Michel Lévy-Provençal, vous publiez Les secrets des meilleurs orateurs aux éditions Larousse. Il y a énormément de conseils pratiques pour vous préparer, pour structurer votre intervention. Nicolas Mel est également avec nous dans le studio. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes tout juste diplômé de Sciences Po Paris et vous êtes membre de l'association de démocratisation de l'art oratoire, l'ADAO. Vous êtes formateur à la prise de parole en public pour des associations, notamment d'ailleurs dans les quartiers défavorisés, vous nous en parlerez. On entendra aussi le reportage d'Alice Milo au festival de lecture à voix haute, Vox, un premier pas vers la parole en public. Lire les textes des autres quand on n'a pas encore quelque chose à dire, tellement on est jeune parce qu'ils sont collégiens. Et en fin d'émission, comme chaque lundi, l'Afrique qui gagne, portrait aujourd'hui de Nadège Batou, réalisatrice de films documentaires engagés. Elle a grandi au Congo-Brazzaville, orpheline, très jeune. Elle a fait de son histoire une force qui continue de l'inspirer pour le continent. Je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Alors évidemment, parler en public, ça fascine tout le monde, mais évidemment toujours les mêmes questions. Paulin nous dit, par exemple, il nous écrit de Kisangani en RDC, je parle bien le français, mais quand je suis avec des amis, j'ai pas de problème de bégaiement. Lorsque je me retrouve devant un public, je bégaye, j'ai la bouche sèche, je ne sais pas pourquoi. Ça s'appelle le trac.
Oui, le trac, tout le monde.
Et c'est normal.
En public.
Il faut même l'avoir.
Il faut l'accepter. C'est la première étape d'ailleurs pour pouvoir parler en public, c'est d'accepter qu'on a peur de parler en public.
Jackie à Antananarivo à Madagascar, quand je prends la parole en public, c'est la panique, ma seule solution, c'est de respirer profondément pour me débloquer. Mais
oui,
il y a d'autres solutions aussi.
Il y a d'autres solutions, effectivement, c'est une solution, je dirais, de forme, la respiration, l'ancrage aussi. Mais le plus important, c'est la préparation et de savoir ce qu'on va dire.
Est-ce qu'il faut masquer sa peur ou pas, Nicolas Mel ? Ou est-ce que finalement, ça nous rend humains face au public, d'une certaine manière ?
Au fond, ce qu'on pense à Dao, c'est que la peur de parler en public, elle est naturelle et elle peut se masquer. Ce serait peut-être un peu facile, ou en tout cas peut-être pas le but d'une prise de parole, mais au-delà de la masquer, il faut la techniciser, il faut se baser sur une technique. Et une fois que la technique est bien maîtrisée, on peut ensuite passer à la pratique. Il y a des exercices de gestion du stress qui permettent de travailler ça, mais masquer sa peur, ce n'est peut-être pas la meilleure des manières de la dépasser, ou en tout cas d'être à l'aise en prise de parole en public.
Allez, on maîtrise sa peur, on respire un grand coup et on compose le numéro de téléphone de notre standard. Nous sommes aussi sur WhatsApp. 33 1 84 22 71 71. On attend vos témoignages, comment vous vous préparez à prendre la parole en public et surtout quelles sont vos questions. Nos invités sont là pour vous aider. 33 1 84 22 71 71. Michel Lévy-Provençal, ce qui revient tout au long de votre livre, c'est qu'il n'y a pas de prise de parole réussie sans une vraie préparation. Peu de gens l'imaginent à ce point-là, d'ailleurs.
Oui, on pense souvent qu'être orateur, c'est inné. C'est totalement faux. Il n'y a pas de gêne de l'art oratoire. L'art oratoire, c'est avant tout une technique, une préparation. Ce que je dis souvent aux intervenants qui passent sur nos scènes, c'est que finalement, ce qui est important lorsqu'on prend la parole en public, c'est de savoir ce que l'on veut transmettre comme message. On ne transmet pas, surtout en 12 minutes, 2, 3, 4 messages, on transmet un message. Donc à partir du moment où on a déjà cette information qui est absolument clé, on commence à construire son discours, sa prise de parole. Ça, alors si je devais résumer en quoi cela consiste, d'abord définir le message et peut-être le résumer en une phrase, souvent la phrase de conclusion. Et puis amener progressivement l'audience vers ce message. Et c'est beaucoup plus facile et efficace d'utiliser l'anecdote, une histoire personnelle, l'émotion, la surprise pour le faire. Et le dernier conseil que je donne, c'est que la première phrase, l'entrée en matière, le moment où le trac d'ailleurs est le plus fort, elle est extrêmement importante parce qu'on a 15 secondes pour attirer l'attention du public.
Et à 15 secondes, 15 12 secondes, minutes après, sinon ça y est, on est condamné.
Oui, parce que, vous savez, à notre époque, on zappe très vite. Et vous le voyez en radio, vous connaissez parfaitement ça. On le voit aussi quand on est sur les réseaux sociaux. On est à l'ère du zapping. Et donc ces 15 secondes sont extrêmement importantes. Et il faut savoir exactement comment on démarre. C'est pour ça que je conseille de connaître aussi sa première phrase par cœur.
Quand je dis qu'il faut se préparer, peu de gens savent que pour les conférences TEDx, vous nous expliquiez tout à l'heure en quoi ça consiste, hein, entre 12 et 18 minutes, ça dépend des époques et des endroits de parole en public, vous les faites répéter parfois jusqu'à 10 fois,
oui.
Répéter 10 fois leur talk, comme vous dites.
Oui, oui, et plus c'est court, plus il faut répéter, c'est le paradoxe. Vous savez, on fait aussi des préparations pour un talk de 3 minutes. C'est extrêmement difficile hein, de parler pendant 3 minutes en public. C'est probablement plus difficile que de parler 12 minutes. Et concernant la répétition, c'est toujours un enjeu d'équilibre. Parce que si vous ne répétez pas assez, vous vous retrouvez dans la situation de devoir improviser. Et la peur paralyse. On n'a pas toutes ces capacités intellectuelles sur une scène face à un public. Il faut le savoir. C'est-à-dire qu'il y a des processus cognitifs en jeu qui font qu'on est paralysé. D'ailleurs, quel que soit son niveau de préparation...
Donc seul l'automatisme va pouvoir prendre le dessus sur la parole, en fait, c'est ça,
l'entraînement. Il doit y avoir une part d'automatisme. Mais à l'inverse, trop de préparation peut aussi dénaturer une prise de parole. Il m'est arrivé hein, de trop préparer des intervenants et de perdre l'émotion, l'authenticité, la vérité, finalement. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'être dans cet entre-deux-là.
Oui, c'est ça. Ne pas perdre ce naturel, Nicolas Mel, c'est aussi ce que vous recherchez avec notamment des personnes que vous préparez qui ne sont pas habituées à prendre la parole. Parce que c'est encore dans la tête des gens un acte assez élitiste, prendre la parole en public.
Tout à fait. Et notre but, c'est bien de démocratiser, de toucher des publics qui n'ont pas toujours accès à des formations de prise de parole en public qui peuvent parfois être un peu chères. Et concernant... cette idée de vouloir trop préparer, c'est vrai qu'on tombe tous facilement dans cet écueil de vouloir apprendre par cœur. Et ça nous est arrivé, beaucoup de participants nous disent « Moi, j'ai appris par cœur mon dernier exposé. » Et ce qui se passe, c'est qu'on a une pression encore plus grande lorsqu'on apprend par cœur, puisqu'il faut respecter le mot, il faut respecter la ponctuation particulière. Et on perd ce côté naturel, on n'est plus dans un acte d'orateur, mais presque dans un acte d'acteur.
Vous préconisez, Michel Lévy-Provençal, d'apprendre ce que vous appelez les pierres.
Oui.
Les pierres qui servent à traverser un ruisseau
Oui, c'est ça. C'est une image, mais je pense qu'elle est juste. Lorsqu'on veut amener une audience d'un point A à un point B, voyez, c'est un voyage, une prise de parole en public, un talk. Il faut connaître ces différents points de passage. Et donc, ces différents points de passage, ça peut être des phrases, des mots-clés qu'on doit connaître pour ne pas sortir de ce chemin, de cette route. Pour autant, au milieu, entre chacun de ces points de passage, se laisser la liberté d'une erreur, se laisser la liberté d'une surprise, d'une interaction avec le public, c'est toujours un gage d'authenticité, de vérité. Et donc, il est très important de connaître sa structure, mais sauf cas exceptionnel, je préconise plutôt de connaître ces points de passage que le texte par cœur à la virgule près.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On est en ligne avec une auditrice. Non, on ne l'a pas encore. Non, on l'a pas encore. On est en train d'essayer de la rappeler, une auditrice qui nous appelle. Est-ce qu'il y a des hommes ou des femmes qui ont marqué l'histoire récente? On ne va pas revenir à, je ne sais pas, les grands présidents américains, mais l'histoire récente de l'art oratoire.
Oui, bien sûr. Bon, sans remonter effectivement au président ou à des personnages comme Martin Luther King, par exemple. Non, je pense que récemment, bon, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, des acteurs comme Steve Jobs ont démocratisé cette façon de prendre la parole, et en particulier dans le monde professionnel. Il était assez rare avant de voir des grands patrons monter sur une scène sans notes et incarner un discours.
Un produit, son produit en fait.
Incarner son produit, mais
son Macintosh.
Absolument, et en dépassant même le produit. Steve Jobs ne parlait pas de la puissance de ses produits ou du prix de ses produits. Le plus important, c'était l'imaginaire, l'univers qu'il créait autour. Et donc cela a changé aussi la manière dont les acteurs économiques s'expriment aujourd'hui en public, mais même les acteurs politiques. Regardez la dernière campagne d'Emmanuel Macron, montant sur une scène, parfois tombant la veste, en bras de chemise, sans cravate, et intervenant sans notes, sans pupitre. C'est du TED.
Alors, en dehors des hommes politiques, on a le sentiment aujourd'hui qu'il faut parler de plus en plus de soi-même. Est-ce que ça ne devient pas finalement une recette un peu éculée, Nicolas Mel?
Au fond, quand on est orateur, un bon orateur ne doit pas parler de soi-même. Au fond, ce que l'on dit, c'est qu'il doit mettre son éloquence, son art, au service d'un message. Il n'est que la courroie de transmission d'une idée qui est plus importante que lui. Et quelque part, il doit avoir une sorte de personnage. Je ne suis pas là pour briller, je ne suis pas là pour me mettre en avant, mais je suis simplement là pour mettre en avant un message que je vais délivrer à mon public. Et c'est bien lui qui est le plus important, car sans lui, je n'ai pas d'intérêt à prendre la parole en public.
Je préciserai un point en disant que ce qui est, en tout cas dans notre expérience, le plus important, c'est que effectivement le message doit être original, mais d'une certaine manière, l'orateur doit probablement être le seul à pouvoir porter ce message, d'où la nécessité d'incarnation. Et c'est à ce moment-là que l'histoire personnelle, les anecdotes personnelles peuvent servir le message. Mais c'est avant tout le message qui est porté. En revanche, si l'incarnation est là, le message est encore plus fort.
Quand vous avez par exemple un orateur, un agriculteur qui vient parler du broyage des branches pour protéger les plantations.
Jacqueline Dupetit.
Exactement. Vous avez des profils de ce type, des gens qui n'ont
jamais
qui n'ont pas
parole.
Été syndicalistes dans l'agriculture.
C'était pas son cas.
Ils ne savent pas prendre la parole.
Absolument.
Ils ne sont pas formés à ça. Comment vous faites pour qu'ils conservent cette authenticité, cette capacité à parler d'eux-mêmes, tout en exposant un message qu'ils ne sont pas habitués à expliquer?
Si je devais être un peu technique, je dirais que c'est la meilleure des matières.
C'est-à-dire c'est ce que vous préférez.
Ah mais oui, ces personnages qui
parce
n'ont
que vous
jamais...
allez les façonner aussi, vous,
on
avec
va
vos
pas les
techniques.
Façonner, on va les révéler. Ce sont des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de parler sur une scène, qui sont souvent pétrifiés. Ils sont une peur immense.
Là, vous faites référence à cet agriculteur-là.
Oui, en l'occurrence, mais il y en a d'autres. Et qui, par le travail, vont d'abord être rassurés parce qu'ils savent ce qu'ils vont dire, et par la répétition, un peu comme un sportif. Un sportif ne court pas une course sans avoir appris quelles sont les aspérités du terrain, à quel moment ils doivent accélérer, à quel moment peut-être ils doivent peut-être décélérer. C'est exactement la même chose. On doit les préparer, les mettre dans les conditions idéales, créer l'écrin parfait pour qu'ils puissent s'exprimer tels qu'ils sont. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire que cette capacité aussi à avoir une faille, à être imparfait, créer cette authenticité et créer le lien le plus fort avec le public.
Bon, on parle depuis un peu plus de 15 minutes, hein, si je ne me trompe pas. Donc, on va faire une petite coupure musicale. Et bien sûr, on continue à vous donner des conseils. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Parler en public, un apprentissage, un parcours plutôt qu'un talent. Les conseils et bien sûr vos questions à nos invités. Retour dans deux minutes.
Jusqu'à ce que tes pulsions soient assouvies. Puis adoucis, tu t'assoupis. Dans les bras de tes parents, dont les paupières sont alourdies. Et qui sourit en écoutant ton gazouille. Perdu dans une forêt de mots, tu babilles. Mis bout à bout, ces mots se mettent à danser la chenille. Le papillon virevolte enfin, tu t'exprimes. Tes émotions sont nues, tes phrases les habillent.
Les mots cognent, ils sonnent dans ta tête. Tu voudrais les laisser s'envoler. Tes sentiments résonnent à tue-tête. Tu ne sais pas comment les dévoiler. Les mots cognent, ils sonnent dans ta tête. Tu voudrais les laisser s'envoler. Pensées rebelles, émotions secrètes. Tu ne sais pas comment les dévoiler.
Tu t'enfermes dans les formes, tu t'affirmes. Tu gamberges avant de parler, t'es fragile. Tu te vantes, tu te vends, tu te défonces. Tu t'effondres ou te défends. Mais dans le fond, tu ne fais que brasser du vent. T'as rencontré cette princesse lors d'un séminaire. Tu voudrais lui dire je t'aime mais tu tergiverses. Sa voix agit sur toi comme une bouillotte en plein hiver. Ton blabla ne traduit pas ce qui se cache sous ton épiderme.
Les mots cognent, ils sonnent dans ta tête. Tu voudrais les laisser s'envoler. Tes sentiments résonnent à tue-tête. Tu ne sais pas comment les dévoiler. Les mots cognent, ils sonnent dans ta tête. Pensées rebelles, émotions secrètes. Tu ne sais pas comment les dévoiler.
Le disque dur est plein, ta mémoire fuit. Les mots s'en mêlent, s'éparpillent et tu t'ennuies. Les jeunes gens utilisent un argot qui t'échappe. Tu les écoutes remodeler ta langue, assis dans des parcs. Tu ressasses le passé, tu t'y agrippes. Tu lègues au monde des expressions migratrices. Tes descendants pourront en savourer l'écho. Tu balbuties mais choisis bien ton dernier mot.
Les mots. Oui, il faut les choisir, surtout pour parler en public. 7 milliards de voisins, on est en direct du lundi au vendredi. Les mots PV Nova, Hippocampe Fou. Avec nos invités Nicolas Mel, Michel Lévy-Provençal, nous donnons des conseils pour structurer son discours, prendre la parole en public, dompter sa peur, ses angoisses, son trac. Et bien sûr, vous nous appelez pour témoigner ou pour questionner nos auditeurs. Clément nous appelle de Kinshasa. Bonjour Clément.
Bonjour Emmanuel.
Clément, je crois que vous avez pris la parole il y a quelques mois devant 6000 personnes à Kinshasa, mais vous n'êtes pas un homme politique.
Non, c'était dans les cadres d'un exposé d'un cours.
Oui.
Voilà, c'était dans...
C'était à l'UNIKIN, l'université de Kinshasa?
Bien sûr que oui.
D'accord, bah oui, c'est vrai voilà. Qu'il y a beaucoup de monde, hein, donc voilà, dès qu'il y a un petit exposé, on est tout de suite 6000 personnes.
Voilà. J'étais en train de parler d'un cours et les professeurs avaient exigé que je parle devant l'auditoire. J'étais dans l'obligation de le faire. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé devant une foule de 6000 personnes. Mais malgré tout, ça n'a pas été facile.
Ah bah oui, ça revient à sauter dans le grand bain, en gros. Hein.
Voilà, ça m'a demandé énormément de travail pour essayer un peu de neutraliser toute cette masse. La masse était vraiment tellement colossale. Et
alors comment vous vous êtes préparé, justement, Clément?
Bon, je me suis donné la peine de revoir un peu les archives. J'ai consulté les discours des grands hommes politiques, des grands professeurs, les exposés, l'ère défense de thèse. C'est ça qui m'a permis de faire face à cette masse-là.
Mm-hmm.
Voilà, c'est donc... sur ça que...
Michel Lévy-Provençal veut vous interroger.
Oui, bonjour. Je voulais juste vous poser une petite question. Est-ce que au bout d'un moment, peut-être au bout d'une minute ou deux, vous avez commencé à perdre la peur et à prendre du plaisir?
Oui, bien sûr. Bon, au début là, j'avais vraiment la peur. Mais lorsque je me suis retrouvé dans le bain d'exposé, et voilà, j'ai eu le courage. J'ai commencé à parler normalement.
Normalement, mais vous aviez appris par cœur une partie de votre plan, de votre trame?
Non, je n'avais pas pris ça par cœur. J'ai simplement essayer un peu d'avoir un peu la maîtrise. Hein, parce que si j'avais pris ça par cœur, ça devrait me bouleverser avec la foule de gens. Mais je me suis simplement dit que non, je vais simplement avoir la maîtrise sur les discours.
Et vous aviez gardé des notes avec vous, Clément ?
Bon, disons que j'ai des notes.
Ah, on a un petit problème de ligne téléphonique. Bon, bah, ça s'appelle la surprise du direct. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'on vous a récupéré, Clément ? Non, j'ai l'impression que oui, on a un vrai problème. Michel Lévy-Provençal et Nicolas Mel, cette peur qui doit disparaître au bout de quelques secondes quand on arrive en public, que faire si elle ne disparaît pas, si elle ne nous quitte pas, si elle paralyse même l'expression du corps? Parce qu'en principe, quand on s'exprime en public, on est souvent debout. En tout cas, c'est ce que vous préconisez, non, je pense, les uns et les autres,
oui,
souvent.
Oui, bien sûr.
On est mieux debout parce que...
On est à la fois mieux debout, on est mieux ancré. D'ailleurs, un petit exercice que je donne à faire aux intervenants souvent, qui est assez drôle, mais en même temps très efficace, c'est de systématiquement, pour pouvoir s'ancrer au sol, autrement dit être le plus fixe possible, c'est important d'être fixe au sol, c'est de serrer les fesses. Vous serrez les fesses et vous vissez les talons littéralement au sol. Donc là, c'est très important. Et puis, une fois qu'on a dépassé finalement cette minute et demie de peur, ce qui est idéal, c'est effectivement de commencer à prendre du plaisir. Si on n'y arrive pas, il faut garder en tête quand même que sa préparation a été très très importante et elle sert à ça. Elle sert à systématiquement pouvoir se raccrocher aux différents points de passage de son intervention et de ne pas faire de sortie de route. Parce que ce qui est le plus terrifiant pour quelqu'un qui s'exprime en public, c'est quand même de se dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de filet. Et donc ça sert à ça, en fait, de répéter et de connaître son texte et particulièrement sa phrase de conclusion. On a tous vécu ce moment où l'intervenant n'arrive pas à conclure. Première phrase de conclusion et finalement, c'en est pas une. Et il continue. Deuxième phrase de conclusion, c'en est toujours pas une, etc. etc. C'est la pire des situations pour quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de scène. Ouais. Donc c'est très important aussi d'avoir...
Et les discours qu'on ponctuait des fameux « voilà » parce qu'on ne sait pas comment enchaîner aussi.
Comment finir surtout, comment finir.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nicole nous appelle de Bobo-Dioulasso, Burkina. Bonjour Nicole.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Eh ben, très bien, on est ravis de vous accueillir chez 7 milliards de voisins. Nicole, vous êtes cadre informaticienne, c'est bien cela?
Oui.
Et donc, vous souhaitez vous exprimer, ou plutôt nous faire part des soucis que vous remarquez auprès des jeunes cadres dans les entreprises ?
Oui, parce que ce que j'ai remarqué ici au Burkina, il y a des jeunes très compétents, mais en public, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Ils ont ce complexe-là et j'aimerais vraiment qu'au niveau, par exemple, de l'université, qu'on puisse inclure une matière... Et pour les amener à s'exprimer en public, parce que c'est pas évident. Des fois, quand ils prennent la parole, c'est la tautologie, ils répètent les mêmes choses, et ça devient tellement ennuyant, et que je pense que la nécessité d'inclure une matière dans ce sens-là à l'université s'impose.
Et vous-même, comment vous vous êtes préparée, Nicole ?
Bon, moi, c'est avec l'habitude, parce qu'au départ, c'est pas facile. Quand je prends la parole au départ, et j'ai le trac, je n'arrive pas, mais il me suffit de quelques minutes d'avoir un point de repère en public et j'arrive maintenant à m'exprimer.
Michel Lévy-Provençal nous disait en début d'émission que une bonne prise de parole en public, on la répète au minimum 3 fois, oui. Voire plutôt 8, 9, 10 fois parfois.
Oui, ça peut arriver effectivement d'aller jusque-là, pas trop non plus parce qu'on perd...
Et vous répétez, Nicole, ou pas ?
Oui, si, parce qu'il faut une maîtrise plus ou moins régulière de la chose. C'est-à-dire qu'il faut... avoir pris, parce que la première fois que j'ai pris la parole en public, ça a été vraiment une catastrophe. Hein. Parce que j'ai eu à me répéter, et j'étais tout le temps dans mes notes et tout et tout. Donc j'avais pratiquement la tête baissée quand je regardais les images, j'avais pratiquement la tête baissée comme si je faisais la lecture. Mais à la deuxième fois, j'ai essayé de m'améliorer. Maintenant, j'arrive à l'exprimer en regardant les gens dans les yeux.
Oui. Merci, Nicole, de nous avoir appelé pour nous faire part de comment vous avez construit sur cette première expérience catastrophique. Elle a du bon, la première expérience catastrophique, même si rien que de s'en souvenir, parfois, c'est une douleur, Nicolas Mel.
Tout à fait. Elle a beaucoup de bon, puisque très souvent, on se rend compte que les personnes qui veulent progresser en prise de parole ont une première expérience qui a été peut-être pas la meilleure. Et cette première expérience a créé de la frustration. Cette frustration, lorsqu'on la travaille, elle nous donne envie justement de continuer à prendre la parole, à nous entraîner. Alors évidemment, il ne faut pas que cette frustration soit masquée par une peur, celle de recommencer cette expérience négative. Mais effectivement, lorsqu'on arrive à se dépasser et à travailler cette peur, on arrive petit à petit à pratiquer et en pratiquant, on s'améliore.
Sur la répétition, est-ce qu'on peut jouer aussi de la répétition dans un discours que l'on a préparé ou pas? Ou la répétition, c'est toujours finalement le résultat d'une impréparation, d'une mauvaise technique d'art oratoire?
Non, la répétition est absolument clé parce que sans elle, on ne sait pas où on va, on n'a pas mémorisé. Je vous rappelle quand même que lorsqu'on est face à une salle de plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes, on n'a pas tous ces moyens cognitifs. On est parfois tétanisé et notre cerveau ne fonctionne tout simplement pas
de la même façon. En fait, je parlais de la répétition quand on dit tout le temps la même chose dans un discours.
Oui,
la redite alors, plutôt, vous avez
redite,
raison.
J'ai
mal choisi mon mot.
Oui, alors dans ces cas-là, ça peut être effectivement des processus rhétoriques qui permettent de mieux passer un message. Ce qui est important, c'est que s'il y a redite, il faut que cette redite soit à minima anticipée, préparée et voulue. Parce que l'impression que cela peut donner, c'est une impression d'imprécision, finalement, d'avoir quelqu'un en face de soi qui ne sait pas exactement ce qu'il veut nous dire et donc tente d'appuyer sur un argument en répétant les mêmes choses. Donc ça peut être un argument rhétorique.
Stéphane nous appelle de Conakry au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Stéphane.
Bonjour madame.
Stéphane, vous semblez, c'est ce que vous avez dit au standard, vous êtes très à l'aise pour prendre la parole?
Oui, je suis très à l'aise.
Et pourquoi cela?
D'abord, j'ai eu à l'enfance, à l'école primaire, un instituteur qui m'a donné la latitude de m'exprimer devant mes amis. Parce que déjà, j'ai commencé à parler français avant même que je ne sois à l'école. Donc, j'étais trop bavard et ça a été d'abord un atout.
Oui.
Et à chaque fois, il me donnait la parole devant mes amis. Par exemple, les lectures, les textes. J'arrivais à le lire devant mes amis sans avoir froid aux yeux. Donc, j'ai grandi avec ça et avec les thèmes d'exposé aussi que j'ai eu à avoir au collège. Ça m'a beaucoup aidé à pouvoir m'exprimer devant mes amis. J'ai pu combattre l'émotion, j'ai pu combattre le stress.
Michel Lévy-Provençal veut s'exprimer, vous dire quelque chose.
Stéphane, c'est ça
c'est Stéphane.
Ce que dit Stéphane est très important parce que d'abord, il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, dès le plus jeune âge, les enfants, vraiment à la toute petite école, prennent la parole devant leurs petits camarades. Il y a un exercice qui s'appelle le show and tell qui leur apprend à prendre la parole en public et à dépasser cette peur. Et puis une autre chose, c'est que nous sommes de moins en moins, certes en France, mais nous sommes quand même dans une culture de l'écrit, beaucoup plus que dans une culture de l'oral. Et donc cette culture de l'écrit fait que nous n'apprenons pas très tôt à prendre la parole en public. Ce qui commence à changer, puisque on l'a entendu il y a quelques mois déjà, que le gouvernement essaie de faire en sorte que dès 2021 ou 2022, au baccalauréat, il y ait une épreuve de prise de parole en public, qui est une faculté, une compétence absolument clé dans le monde dans lequel on vit.
Notamment avec le règne de la vidéo sur Internet, mais pas seulement. Nicolas Mel, vous aviez appris à prendre la parole avant d'arriver à Sciences Po Paris?
Alors, pas du tout. Moi, je suis un ancien timide, un ancien, une personne qui manquait de confiance en elle. Et en fait, le même constat a été fait par Adao, c'est-à-dire qu'on nous apprend à lire, on nous apprend à écrire à l'école, mais malheureusement pas à parler. C'est peut-être parce que nous avons encore une vision de l'art oratoire qui serait un art qui chercherait à convaincre ou à persuader de manière assez malsaine. Ce qui n'est pas du tout vrai, au contraire, l'oratoire vient appuyer une argumentation réfléchie et La prise de parole en public, d'une manière générale, doit être enseignée dans ce sens-là, permettre à tous de s'exprimer, quelles que soient ses origines sociales, quelles que soient ses origines financières ou que sais-je, dans l'optique à ce que tout le monde puisse prendre la parole et défendre ses idées, convaincre et argumenter sur un point de vue.
On est en train d'essayer de rappeler notre auditeur Abou qui nous appelle de Tunis au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Abou, soyez le bienvenu.
Bonjour, merci.
Quel est votre problème ?
Bon, moi j'ai l'impression toujours que je n'ai pas été écouté, quoi. Donc quand je commence à parler, dès que je commence à parler, les gens ne veulent plus écouter, j'ai pas leur attention.
Dans quel cadre vous prenez la parole en public, Abou ?
Donc, c'est surtout à l'école, au centre de formation. Oui. La dernière fois, c'était quand j'ai présenté mon projet. Donc, c'était un peu difficile, quoi.
Oui, c'est très frustrant, j'imagine. Merci pour cette question, oui. Abou. Qu'est-ce qu'on peut donner comme élément de réponse ?
Encore une fois, les 20 premières secondes sont clés. Donc, pour pouvoir démarrer de manière efficace, sachez que ce qui marche le mieux, c'est l'émotion. Alors, ça peut être le rire, ça peut être la peur, ça peut être la surprise. Ça peut être aussi l'interactivité avec la salle. Je peux vous donner un exemple. C'est probablement d'ailleurs l'exemple le plus frappant de ces dernières années sur la scène de TEDx Paris. Laurent Alexandre qui arrive sur scène et qui dit... Je viens vous parler du tabou ultime, votre mort. Quand allez-vous mourir ? Je vous garantis qu'avec ça, tout le monde écoute. Donc, imaginez ce qui pourrait intéresser votre audience. Vous avez 15 à 20 secondes pour pouvoir attirer l'attention. N'oubliez jamais cela.
Merci en tout cas à tous les deux. Alors on va continuer bien sûr de discuter de ce sujet, mais avec des reportages. L'absence, l'apprentissage de la prise de parole, vous en parliez, pour commencer à être à l'aise en public, vous le disiez beaucoup, c'est un vrai problème dans les pays de culture francophone où là, on a moins l'habitude d'apprendre à parler en public par rapport aux pays de culture anglophone. L'apprentissage de la prise de parole, ça peut commencer aussi par la lecture à voix haute. Au festival Vox. C'est un festival urbain de lecture à voix haute qui se tient chaque année en juin à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. C'est une initiative qui a été lancée il y a 8 ans par Jean-Marie Ozanne, le fondateur de Folie d'encre, évidemment pour faire aimer en même temps la lecture, la première et la seule librairie du 9-3, comme on dit, de Seine-Saint-Denis, quand elle ouvre ses portes en 1981. Et donc cette année, ce sont les élèves du lycée Eugénie Coton à Montreuil qui ont donné de la voix. Reportage d'Alice Milot.
Au bord du puits, le jardinier était précisément en train de tirer de l'eau. Anne conduisit Hélène auprès de lui et remit, encore une fois, la fameuse tasse dans les mains de l'enfant. Anne prit alors cette main et y épela le mot « eau ». Oh, oh, cette chose merveilleusement fraîche, cette chose, Annie, c'était eau.
Alors nous sommes à Croix-de-Chavaux, sur l'esplanade du conservatoire, entre la librairie Folie d'encre et le conservatoire de Montreuil. Je suis Nicolas Solois, je suis coordinateur auprès de Jean-Marie Ozanne du festival Folie d'encre.
Donc là, on est vraiment dans un environnement typiquement urbain.
Ah oui, on est sur les trajets de sortie du métro et d'aller-retour au commerce des habitants. Et...
Là, derrière nous, c'est le centre commercial.
Le centre commercial, derrière, devant. Et l'objectif de ce festival urbain de lecture à voix haute, c'est d'aller à la rencontre de publics qui ne sont pas forcément des publics habitués ni aux librairies ni aux bibliothèques, et d'amener le livre dans l'espace public et la lecture dans l'espace public. On se retrouve comme un enfant à qui un papa ou une maman ou une grand-mère lit une histoire. Alors maintenant, derrière moi, ce sont les élèves du lycée Eugénie Coton. Ce sont des élèves qui sont en CAP librairie. Et l'objectif était pour eux d'ouvrir des livres, d'entrer dans ces univers-là et d'être capables d'en parler. Donc ils ont écrit des textes, des poèmes qu'ils peuvent slammer ou dire et qui racontent ce qu'est pour eux le livre qu'ils ont découvert. Et là, on le voit avec ces élèves, du simple fait d'avoir dû travailler au micro, ça a changé cet outil technique, d'un seul coup, les a amenés à prendre conscience autrement de leur corps, de leur voix, de leur posture, et du coup d'entendre autrement les textes qu'ils avaient écrits, et l'envie de les dire a mobilisé des élèves qui au départ étaient plus ou moins réticents par rapport à ce projet.
Trop de monde. C'est la première fois que je fais ça de ma vie, et c'était très gênant. Moi, j'aime pas lire du tout.
Alors, qu'est-ce que tu fais dans un CAP librairie ?
Je voulais faire du commerce en fait. ils m'ont forcé, comme il n'y avait plus de place, ils m'ont donné cette filière-là que j'aimais pas et voilà, ils m'ont accepté. Et j'ai obligé de trouver un lycée et je suis venu ici. J'aime pas la filière, mais en tout cas, il y a des projets qui m'ont plu au lycée. Et ce projet aussi m'a plu. Non, je suis content.
Parce que t'es fier? Pourquoi t'es content? C'est quoi?
Je suis fier de moi parce que j'ai fait un effort de lire devant tout le monde, parce que j'ai jamais lu comme ça devant tout le monde. Je suis fier. C'est tout.
Si je n'avais pas parlé avec Thomas et si Thomas ne m'avait pas écouté, comment m'aurait-il proposé ce livre-là que j'ai aussitôt dévoré? À cause de l'histoire, une histoire vraie, une fillette aveugle, sourde et muette, depuis l'âge de 6 ans, hallucinant. Ça se passe en Alabama, il y a une centaine d'années. Les parents de cette fille-là ne savent pas comment procéder. Quand on ne voit pas, et qu'on n'entend pas, et qu'on ne parle pas, il nous reste quoi? Ce livre m'a donné envie, à moi aussi, d'aider les gens en les écoutant, au lieu de les juger. Voici ce qui m'a touchée, le plus touchée, dans l'histoire d'Hélène Keller.
Bah moi j'avais un petit stress parce qu'il y avait ma mère, mais sinon ça s'est très bien passé.
Toi tu as fait l'éloge de l'histoire d'Hélène Keller, hein, c'est ça?
Qui est une histoire vraie.
L'histoire d'une petite fille qui était...
D'une petite fille qui était aveugle, sourde et muette. J'ai commencé à lire et j'ai direct senti l'émotion. La petite fille, comment elle est dans une prison en fait, sans mot ni couleur. Et elle n'a pas de son. Et donc elle est considérée un peu comme un animal, même par ses propres parents. J'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre.
Parce que d'habitude, tu lis quoi?
D'habitude, je lis du fantastique. Ça veut dire des livres un peu enquête et tout.
Le fait de lire à voix haute, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu?
Oui, c'est ce qui m'a plu. Là, j'essayais de que les personnes qui me voient en train de lire ressentent la même émotion que quand moi j'ai lu le livre. Oui, moi je suis très contente. Bah, ma mère, elle est fière et moi je suis fière. Donc,
Pourquoi elle est fière, ta maman?
Parce que je lui ai donné de l'émotion.
Et vous êtes la maman de cette jeune fille?
Oui,
alors.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez pensé?
J'ai pleuré. J'étais émue, c'est ça? C'était fort.
Qu'est-ce qui vous a fait pleurer?
La façon de le dire, j'ai compris. La douleur, tout quoi. Par sa voix, par la prononciation des mots.
Et votre fille, elle a choisi ce CAP librairie. Vous, à la maison, vous êtes une famille, vous lisez beaucoup?
Elle.
Vous, non?
Mais pas beaucoup.
Pourquoi?
Moi, je travaillais toujours dehors. Moi, je travaille chez les personnes âgées. Je m'occupe d'eux, le ménage, la poussière, leurs courses. Après, je travaille samedi, dimanche, pressing. J'ai pas le temps. Elle était tout le temps avec moi. Mais elle avait ses livres. Elle lisait beaucoup.
C'est-à-dire que oui. Tu l'accompagnais, c'est ça, ta
compagnie? Ah oui, oui, le soir, elle m'accompagnait. Elle lisait et tout. Hein. On rentre à 1h du matin, elle a fait tout. J'ai vécu toute seule avec elle. Hein.
Donc c'est les livres qui te tenaient compagnie quand tu étais avec ta maman, c'est ça?
Oui. Elle a appris beaucoup de choses grâce aux livres et les voyages, les musées, les théâtres.
Qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir appris grâce aux livres que tu n'aurais pas appris autrement?
À ressentir des émotions.
7 milliards de voisins pour se parler.
Les émotions dans la littérature, dans les livres, dès son plus jeune âge, mais aussi que l'on peut partager à travers le discours oral, la prise de parole en public, Michel Lévy-Provençal. Au-delà de tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission sur comment partager ses idées, faire passer ses messages, quelle est la suite logique finalement du discours classique qu'on a bien décortiqué?
Vous savez, ça fait 10 ans qu'on organise TEDx Paris avec mon équipe et on a vu l'évolution du talk, c'est-à-dire cette prise de parole courte, 12 à 18 minutes, aller partout dans la société, dans les entreprises, dans la sphère politique. L'objectif aujourd'hui pour nous et pour les 10 prochaines années, c'est de dépasser la prise de parole courte, c'est d'ouvrir vers de nouveaux formats et en particulier les formats interactifs. Notamment aller imaginer, construire aussi des méthodes pour apprendre à tous la rhétorique, le débat. Essayer de faire en sorte aussi de se doter de ces outils au quotidien pour pouvoir convaincre. Et faire en sorte de dépasser ce qu'on vient de dire. Autrement dit, cette prise de parole qui n'est pas totalement écrite, mais quand même un petit peu, vers quelque chose d'encore plus authentique, d'encore plus vrai et d'encore plus impactant.
Ouais, être capable de débattre pour faire entendre sa voix, c'est d'autant plus essentiel. Nicolas Mel, vous qui intervenez notamment dans des quartiers défavorisés,
Oui, tout à fait. Et très souvent, en fait, ce qui manque aux personnes qui veulent prendre la parole, c'est peut-être cette question de la légitimité. Est-ce que je suis légitime à prendre la parole? Est-ce que je sais comment faire? Et quand on leur apporte une technique, trois appuis, quand on leur permet de pratiquer et quand on leur fournit quelques outils de gestion du stress, eh bien on peut se dire, oui, si j'applique cette technique, si je continue à pratiquer, eh bien je me sentirai plus légitime à prendre la parole, quel que soit le contexte dans lequel je dois le faire.
Et commencer à lire ses livres préférés à voix haute quand on est tout jeune, quand on est collégien ou lycéen, ça peut être un début, pourquoi pas?
Tout à fait, ça peut être un excellent début, ne serait-ce que pour travailler sa voix, travailler également... peut-être aussi une posture lorsque l'on se tient pour lire un texte. En tout cas, c'est un bon exercice pour travailler sa prise de parole.
Alors, on termine cette émission, je vous l'avais annoncé, mais comme chaque lundi, notre rubrique L'Afrique qui gagne, portrait de Nadège Batou. Nadège Batou est réalisatrice de films documentaires engagés. Elle a grandi au Congo-Brazzaville. Elle a été orpheline très jeune et elle a fait de son histoire une force qui continue de l'inspirer, qui continue aussi de lui donner l'envie de partager avec les autres. Charlie Dupiot l'a rencontrée.
J'ai été élevée par ma tante parce que ma mère est décédée. Ma mère est décédée quand j'avais l'âge de 4 ans. Je suis née sans père, en fait. Je n'ai pas été reconnue par mon père biologique. Donc j'ai grandi à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, et j'ai grandi plutôt dans les quartiers populaires de Brazzaville, donc à Mongali. Et donc là, après quelques années plus tard, ma tante et mon oncle se séparent. Et après mon bac, quelques années plus tard, je me retrouve donc à Pointe-Noire pour suivre une formation de journalisme dans une chaîne de télévision privée, la télévision pour tous. Et donc là, je me retrouve enceinte d'un homme qui ne veut pas de la grossesse, qui ne veut rien entendre de la grossesse. Je reviens à Brazzaville pour avoir le soutien de ma tante. Et donc ma tante, ne voulant plus de moi, donc je me retrouve dans la rue toute seule et je me bats. Je suis recueillie par une autre tante le temps de la grossesse, de l'accouchement, où je fais un mort-né et après je reprends ma vie en main et je repars dans l'audiovisuel, mais plutôt du côté du cinéma où je veux raconter des histoires de vie.
Comment vous êtes venue à penser au cinéma ?
Jusque-là, je n'étais jamais allée dans une salle de cinéma parce que ça n'existait plus au Congo. Ça n'existe toujours pas au Congo. J'avais vu un film documentaire sur les enfants sorciers à Kinshasa à la télé et ce film m'avait vraiment marqué, c'était des petits enfants. Et je pense que c'était toujours ce sentiment de rejet que moi j'ai vécu en tant qu'enfant. Et la façon dont le sujet avait été traité dans sa longueur, dans sa profondeur, qui m'avait vraiment marqué. Et donc, en ce temps-là, j'avais donc déjà repris un peu le journalisme. J'avais une émission à la télévision, à DRTV, qu'on appelait L'autre regard. C'était donc des histoires de vie des personnes vulnérables dans la société, que j'allais interviewer des orphelins, des aveugles. Et donc là, à partir de cette émission, je découvre donc Rod, qui est en terminale, qui prépare son bac. Mais Rod est drépanocytaire total, il est orphelin, il est diabétique et il est enfant de la rue. Et donc pendant que ses copains à l'école, après, à la fin de la journée, rentraient chez eux dans leur voiture et leur maison, Rod, lui, il retrouvait la rue, il dormait dans la rue avec d'autres enfants de la rue qui partaient pas à l'école, qui se droguaient à la colle, voilà. Et donc cette histoire m'avait touchée. Cet enfant qui n'a pas de famille, personne n'en veut, parce qu'un drépanocytaire, ça coûte cher, qui est traité de sorcier. Et je me suis dit, c'est le cinéma qui va m'aider. Je ne m'y connaissais pas en cinéma, donc je me suis rapprochée d'un réalisateur, Alain Kodia, qui avait fait une formation en documentaire au Burkina Faso. Et donc on a fait ce film, Ndakoya Bandeko, Le combat de Rod.
Alors vous faites donc ce documentaire, ce premier documentaire, co-réalisé donc avec un réalisateur congolais, et ensuite ?
On l'inscrit au Short Film Corner à Cannes. Il est pris par une maison de distribution aux États-Unis. Voilà, le film rencontre un fort succès. Et là, du coup, mon nom aussi rencontre un fort succès. Du coup, je continue à faire des films. Je fais mon deuxième film qui parle de la pénurie d'eau à Brazzaville. Là, c'est quand même un sujet très, très engagé. C'est un sujet politique. Ben, la situation, c'est qu'il n'y a pas d'eau dans les robinets au Congo. Il y a de l'eau au Congo. On a beaucoup de rivières, mais on n'a pas d'eau dans les robinets. On voit des gens se balader dans la rue, on achète des bidons d'eau.
Le documentaire s'appelle « À la recherche de l'eau ».
Kunkelo. Kunkelo, ça veut dire « à la source ». Parce que je suis des enfants qui, tous les jours, traversent la ville, la capitale, pour aller chercher de l'eau. Ça, tout le monde le sait, parce que le système de distribution d'eau est défectueux à Brazzaville. Aujourd'hui encore, le problème... Quand moi, je fais ce film, nous sommes en 2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2018 et la situation ne s'est pas améliorée.
Quand vous sortez le film, il est interdit à ce moment-là au Congo-Brazzaville.
Et j'ai reçu des appels en me disant ben, je me prenais pour qui ? J'espère que j'ai les reins assez solides pour traiter ce genre de sujet. J'avais eu très très peur. Et donc je pars avec au FESPACO,
festival de cinéma.
Cinéma et tout. Je l'inscris au marché du cinéma et à Ouagadougou. Et là, il y a des articles qui sont écrits dessus et tout. Puis après, je suis partie du Congo. Parce que c'était très dur de travailler. C'est très, très dur de travailler dans le cinéma au Congo. J'ai découvert l'Afrique de l'Ouest. J'ai voyagé un peu partout au Niger, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et, et je suis venue en France en 2014.
Pour vous, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente, l'Afrique qui gagne ?
Moi, qui fais partie de ces griots modernes, qu'on appellerait comme ça, ceux qui racontent les histoires, c'est qu'il faut raconter ces histoires avec le regard des Africains. Apporter un nouveau regard, c'est affronter aussi, avoir le courage d'affronter ces démons. Tant qu'on n'accepte pas que l'homosexualité existe en Afrique, que ce n'est pas une maladie, tant qu'on n'accepte pas que la femme a une place importante dans la société, tant qu'on n'accepte pas qu'il n'y a pas d'enfant sorcier, ça ne peut pas marcher. C'est ces films-là qu'il faut raconter. Ils changent les regards. Ils changent les regards parce que ça fait prendre conscience.
Nadège Batou, griot moderne, Nicolas Mel, je vous ai vu hocher la tête.
Oui, tout à fait. Moi, je suis admiratif devant une telle success story. Alors, comme elle le disait, rien ne l'a prédisposé à avoir une telle réussite. Un beau message au fond qui est diffusé, puisqu'on peut tous s'identifier presque à ce parcours. Et ce qu'elle nous dit aussi, c'est qu'on peut tous réussir malgré nos problèmes, malgré nos handicaps, le fait que le film a été interdit à sa sortie. Si on est vraiment porteur d'un message et qu'on a un vrai objectif, on peut vraiment y arriver. Et moi, j'ai été admiratif devant son histoire.
Et à condition, évidemment, de savoir en parler. Merci à vous, Nicolas Mel, de l'association de démocratisation de l'art oratoire, l'ADAO. Michel Lévy-Provençal, prochain TEDx Paris en novembre prochain, c'est bien ça ?
Oui.
Et vous publiez Les secrets des meilleurs orateurs aux éditions Larousse. Et puis bien sûr, on peut en savoir plus sur le nouveau projet que vous venez de lancer. Enfin, il y en a plusieurs, mais BOMA.
Oui, BOMA, qui est une initiative internationale qui rassemble des acteurs qui innovent pour avoir de l'impact positif sur le monde. Et on va essayer de créer de nouveaux formats d'interaction, de débat, d'échange lors de nos événements.
Et s'interroger aussi sur l'innovation. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine Dianous, Steven Elsley. Je vous signale que la semaine prochaine, on aura une série d'été, Vivre en ville. Chaque jour, des journalistes de RFI ou d'autres invités nous racontent le quotidien dans une ville du monde. On vivra à Kaboul, la ville encerclée, à San Francisco, la ville innovante, ou encore à Addis Abeba, la ville panafricaine. Et demain, vous serez tous sur l'invention du bronzage. Quelle folle idée!